Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations.
C'est en fait c'est un truc interne, quoi. C'est quelque chose à toi. C'est pas une. C'est dans ton cerveau. Tu analyses les choses différemment, tu vois les choses ensemble. Il y a plein de choses qui t'arrivent dans ta tête. Tu analyses, tu sais pas pourquoi t'as analysé ça, et t'as la réponse. Et donc le problème c'est que les transformer en écrit, les faire sortir par la bouche ou par la main, ça marche pas. Ça marche pas bien. Voilà.
La dyslexie, difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, en dehors de toute déficience intellectuelle et sensorielle et de tout trouble psychiatrique.
C'est en période de babysitting, je comptais les histoires au lieu de les lire, et la petite de 2-3 ans, mais tu lis pas mot à mot. Je dis, ben non, je te compte l'histoire, moi je veux que tu lises mot à mot. Et c'est la maman qui est passée par hasard dans le couloir, qui m'a vu me décomposer, et elle m'a dit, écoute, elle a vraiment besoin qu'on lise très, très, très lentement. Elle m'a montré comment faire. Et j'ai vu que c'était vraiment super lent. Et elle m'a expliqué certaines choses avec les virgules et les points. Et c'est avec la petite, en fait, en lisant tous les soirs ses histoires. Et c'est ça qui a fait que j'ai appris à lire à haute voix. Et c'est ça qui m'a aidée énormément. En tout cas, ce n'était pas les enseignants de l'école que j'ai eus parce que c'était plutôt dans la moquerie. J'ai même, quand j'ai été demander de l'aide à mon professeur de français, parce que je voyais que j'arrivais pas à écrire sans faute et elle m'a dit, de toute façon, vous êtes un cas désespéré, on pourra jamais rien faire avec vous.
Bon, je lis alors.
Oui.
Alors, j'ai l'impression d'avoir des grains de sable dans les yeux. J'ai des larmoiements et des rougeurs. Depuis 15 ans, je suis 7 heures par jour devant un écran. Le soir, mes yeux piquent, brûlent. J'ai souvent des maux de tête et même des vertiges. Depuis une semaine, j'ai des douleurs cervicales, comme les fils sont de la même couleur que les tissus. Je dois me pencher pour bien voir mes coutures, sinon je n'assure pas le rendement.
Voilà. Du coup, ça te demande beaucoup d'efforts ?
Pour lire, oui, énormément, oui. Enfin, la lecture naturelle dans ma tête, ça me donne pas d'effort. Je lis beaucoup. Mais à voix haute, c'est un effort énorme. Par exemple, quand je fais là, j'ai des réunions où on a des PowerPoint. Tous les PowerPoint, je les connais par cœur. Il y en a 50. Et en fait, je lis pas. Je raconte l'histoire. Donc je dis, voilà, non, on va voir ça, on va voir ça, on va faire ça, on va faire ça. En fait, je connais tout par cœur. Et je peux pas. Si je m'arrête pour lire, là, je suis bloqué. Je ne peux pas travailler. Je relis comme un gamin de 2 ans. Voilà. C'est pas fluide, il n'y a plus de fluidité, il n'y a plus rien, tout ça.
Est-ce que tu as souffert de la dyslexie enfant ? Est-ce qu'on t'a, socialement, est-ce que tu as été mis à l'écart à cause de la dyslexie ?
En français, oui, beaucoup. On m'a mis au fond de la classe, l'instit. Ça les a emmerdés. Parce qu'à l'époque, c'était un problème freudien, quand j'étais jeune. C'était un problème avec ton père, ta mère. Même quand j'étais à la fac, une fois, je suis allé voir la médecine de la fac pour voir si je pouvais avoir des cours d'orthophonie. Et là, la fait, ah oui, mais plutôt, il faudrait plutôt voir un psychologue par rapport au comportement, par rapport aux relations de votre père, mère, etc. Parce que la dyslexie, ils m'ont expliqué que c'était ça. Alors j'ai dit, bon, ok, je laisse tomber. 10 ans plus tard, j'ai appris que c'était génétique, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les parents, quoi. Voilà.
Oui, bonjour.
Madame Gontier,
voilà, il n'y a pas de problème.
Bonjour.
J'étais avec une hotline.
Thierry Benoël Villig, je suis pédiatre libéral à Toulouse. J'anime à Toulouse une consultation spécialisée sur les difficultés de développement et d'apprentissage des enfants depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai également un investissement associatif avec une association qui a été fondée il y a maintenant bientôt 4 ans, qui s'appelle Occitadis, qui a été fondée à la demande de l'Agence régionale de santé Occitanie, avec un mandat double, qui est un mandat d'une part d'organiser l'accès aux soins pour les enfants qui ont des troubles spécifiques du développement ou des apprentissages à l'échelle de la région, et l'autre mandat qui est un mandat d'aider et d'accompagner sur la région Occitanie à la mise en place de projets de prévention. Et les deux grands projets sur lesquels on travaille actuellement, c'est les difficultés de développement du langage oral, donc la capacité à parler, à s'exprimer à l'oral pour les petits-enfants, et les difficultés pour apprendre à lire, les difficultés d'acquisition du langage écrit. En parallèle de ça, on a également un groupe de professionnels qui ont développé une valise comprenant une trentaine d'exemples d'aménagements pédagogiques pour la classe ordinaire, pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou de développement. La dyslexie, alors il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs mécanismes en jeu là-dedans, mais le mécanisme principal, c'est d'arriver à établir des correspondances entre les sons, hein, par exemple bateau, ça se sépare en bas, et ça se sépare en tôt. On peut aller voir un peu plus loin, bateau, ça peut se séparer en b, a, t, o. Donc l'enfant, en grande section de maternelle, il va apprendre cette segmentation des mots en syllabes ou en sons. Cette compétence-là, qui est une compétence phonologique, elle va servir ensuite à l'enfant qui va apprendre que ba, en symbole graphique, ça correspond au b, et au A. Et l'enfant va apprendre comme ça, à force d'être exposé à des petits cartons sur lesquels il est écrit bas et le son qu'il entend bas, il va faire ses associations, il va se construire en mémoire à long terme un grand répertoire d'associations entre les sons et les graphèmes. Il y a des enfants qui ont un trouble dans l'élaboration du langage oral ou qui en ont eu un dans le passé, ce trouble s'est réglé, et puis des enfants aussi qui n'ont pas ce trouble de langage oral, chez qui l'établissement de ces correspondances ne se fait pas bien. Et donc, ils peinent au décodage. Et tant que le décodage n'est pas en place, la lecture derrière, elle est beaucoup plus compliquée à se mettre en place.
Du coup, je vous ai trouvé entre-temps les coordonnées de l'équipe de l'ASEI à Ramonville.
D'accord.
Là. Voilà, comme ça, je vous fais suivre ça. Il y a une plateforme adulte.
Et vous... Parce qu'il y a combien de personnes dyslexiques à peu près dans la population française?
C'est difficile à savoir, il n'y a jamais eu de mesure vraiment.
Cécile Péguin.
On sait qu'il y a 9% d'illettrisme déjà. Donc parmi ces personnes en situation d'illettrisme, il y a forcément une grande part de personnes qui ont eu des dyslexies sévères, non soignées, non compensées. Ensuite, on établit dans les pays occidentaux les personnes avec trouble de 10, dyslexie, autour de 8-10%. Ça peut s'associer à d'autres troubles aussi, donc la dysorthographie, hein, le problème d'orthographe. Il y a des personnes qui peuvent aussi avoir une dyscalculie, donc qui n'arrivent pas du tout à automatiser les calculs de base. Des personnes qui peuvent avoir des problèmes avec leur coordination motrice, voilà, ça s'appelle une dyspraxie. Et puis des personnes qui ont des troubles du langage, qui ont vraiment beaucoup de mal à comprendre et à s'exprimer, donc ça s'appelle dysphasie. Voilà, c'est un ensemble de troubles atteignent variablement les personnes, mais finalement, en tout, bien 10% des gens sont concernés. La dyslexie, c'est le trouble le plus fréquent dans ces troubles.
Le problème, c'est le mot, la fin du mot, où il s'arrête dans la phrase. Et donc moi, tout le monde, personne ne supporte, il n'y a que moi qui supporte, je pense que les dyslexiques supportent tous, c'est de faire apparaître tous les points. Je sais pas, il y a une commande sur le Word, par exemple, tu as une forme de note de musique. Et je mets toujours ça en marche. Donc on voit tous les points qu'il y a entre les mots. À la fin de la phrase, on voit la note de musique pour revenir à la page. Et moi, si j'ai pas ça, j'arrive pas à lire un texte. Et en ayant ça, je lis le texte très très vite. Voilà. Et donc normalement, même pour les dyslexiques, j'ai remarqué qu'il fallait qu'il y ait un espace supérieur entre les mots que pour les gens normaux. Parce que l'espace permet à l'œil de voir qu'il y a un espace beaucoup plus important, donc le mot s'arrête. Parce que sinon, c'est trop près. Et moi, je lis tout et j'interprète la lecture. Souvent, je ne lis pas entièrement le texte et mon cerveau imagine la fin du texte. Donc, je suis obligé de revoir lentement le texte. Par exemple, quand j'étais au lycée ou à la fac, j'étais obligé de réécrire à la main les énoncés. Parce que si je n'écrivais pas la main énoncée, je partais dans une autre direction. Pour que mon cerveau se ralentisse suffisamment à la vitesse de l'écriture, pour qu'il analyse le texte exact. Sinon, je répondais à côté. Et j'étais persuadé d'avoir répondu à la question.
« Je suis Michel Charnay, je suis donc la présidente de l'association Apedis Midi-Pyrénées et je suis présidente depuis 1997. Alors, l'association, elle a pour but essentiel l'accompagnement des familles qui ont des enfants, des adolescents, des adultes qui présentent les troubles 10. Apedis est plutôt centré sur la dyslexie.
Socialement, comment ça se passe pour les familles? C'est difficile pour leur enfant? Est-ce qu'il est un peu mis de côté avec les troubles dyslexiques? Est-ce que les familles se sentent écartées?
Ils sont souvent la cible, effectivement, de moqueries entre eux, déjà. Et par rapport aux enseignants, il y a souvent des réflexions blessantes. L'enseignant n'est pas forcément conscient que, et encore, tu as zéro en dictée et que, par rapport à l'estime de l'enfant, ça y est, ça y a un coup à porter à son moral. Donc le parcours de l'enfant est difficile parce qu'il y a cette mésestime de lui-même.
Vous êtes maman d'enfants et petits-enfants à troubles 10, et notamment dyslexiques. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos difficultés que vous avez eues?
Alors, oh là. Donc ça remonte, moi j'ai 4 garçons qui ont tous présenté des troubles d'apprentissage, mais il y a 40 ans, c'était psychologique. Voilà, donc il n'y avait pas du tout cette prise en charge, et c'était complètement, pratiquement inconnu. C'était, ou bien on était des mauvais parents, on ne savait pas faire travailler nos enfants, ou bien c'était des blocages psychologiques. Alors, un père professeur de français, une mère chercheur en pharmacologie, c'était notre niveau intellectuel qui bloquait nos enfants. Voilà ce qu'on nous disait.
Il y a 40 ans, comment vous l'avez vécu? Parce que ça avait dû être difficile.
Très, très mal, parce qu'on était... Alors là, on était vraiment des familles isolées, parce qu'on nous regardait vraiment de travers. On éduquait mal nos enfants. Mes garçons, sur les 4, il y en avait au moins 2 qui avaient un trouble de l'attention. Hyperactivité, trouble de l'attention. Et donc là, aux difficultés scolaires s'ajoutent aussi des difficultés, alors qu'on mettait sous le terme de difficultés de comportement, mais en fait c'est parce qu'ils ont besoin de bouger, ils sont impulsifs, et donc là on était vraiment regardés comme des familles qui ne savent pas éduquer leurs enfants, et avec l'échec scolaire à l'appui bien sûr. Donc ça a été très compliqué. Et je suis partie... Pour le troisième et le quatrième, donc les deux aînés étaient déjà beaucoup plus grands, je suis partie à l'hôpital Robert Debré à Paris, entre 85 et 90, pour avoir un autre éclairage que celui qui était posé sur la région Midi-Pyrénées. Après plusieurs journées de tests à l'hôpital, les médecins m'ont donné le diagnostic trouble de l'attention, hyperactivité pour l'un, l'autre c'était trouble de l'attention sans hyperactivité mais une grosse impulsivité et dyslexie on posait pas, il y a 40 ans on posait pas vraiment encore le trouble de dyspraxie, on disait il était maladroit, il écrivait mal, mais voilà. Ça a donné un apaisement parce qu'on mettait effectivement des mots sur. Après, la difficulté, c'était de les accompagner parce qu'il n'y avait rien. Tout ce que nous mettons en place maintenant et nous conseillons aux familles de mettre en place à l'heure actuelle, ce n'était pas du tout le cas. Et on avait encore plus ce regard négatif des enseignants. T'as pas travaillé, tu fais exprès, enfin voilà. Donc, on avait un mot, mais on ne savait pas encore vraiment comment faire le parcours. On soutenait le travail à la maison, on faisait comme on pouvait, et c'est grâce à leur investissement, à nos enfants, quand même, leur ténacité, pour arriver quand même à quelque chose, puisqu'ils sont arrivés.
Je suis dyslexique et... On a constaté ma dyslexie quand j'avais 12 ans. Ben, en primaire, on m'a dit que j'étais complètement bête. Donc, quand on a dit à mon père que je devrais aller dans une école spécialisée, lui, il a pensé tout ce qui était professionnel. On lui a dit non, elle ira dans un groupe avec des personnes qui sont en déficience mentale et elle pourra faire sa vie. Il y aura une personne qui va faire sa comptabilité, sa gestion et tout. Et là, ça a fait un grand froid dans la famille. Et il m'a suivi un petit peu. Il a vu que j'étais pas du tout bête, que je pouvais retenir. Il fallait juste une façon de m'enseigner. Et c'est de là qu'on a appris que j'étais dyslexique. En sachant que souvent la dyslexie va avec un problème de psychomotricité. Et étant très dynamique, sportive et tout ça, j'avais pas de psychomotricité générale. Sauf j'avais un problème en psychomotricité. motricité fine. Et, mais ça, ils ne l'ont pas détecté. Donc ça a été difficile pour moi à gérer. Mais ça a été plus, on va dire, dans les années... Alors en Belgique, ce n'est pas la même chose, mais on va dire collège et lycée ici en France. Les professeurs, il y en a certains qui se moquaient de moi, soit y passer en disant « Marie-Laure, elle ne sait pas lire ». Donc 8, on passe. Et pourtant, ça me gérait un grand stress, que je suis en train de compter les élèves pour savoir quand moi, j'allais passer pour lire la ligne que je devais lire, pour essayer de la retenir par cœur. Donc voilà mon cursus scolaire traditionnel. Et de là, j'ai fait des cours du soir, j'ai mis mon orgueil de côté et j'ai été suivre des cours avec des personnes illettrées. Donc... Et première, on va dire, première histoire, ça a été le dictée. Et là, c'était... quelle horreur. Et quand j'ai fait plus de, je crois, 100 fautes sur le texte, elle m'a dit, bravo, c'est que tu es à ta place. Et donc, on va améliorer ça pour que tu ne sois plus à ta place. En tout cas, ici. Et ça a été un grand soulagement de me dire, avec plein de fautes, j'ai une place. En temps normal, c'était l'inverse. Et puis après, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée que j'ai réussi avec succès. Donc j'étais de l'autre côté de la barrière. On m'avait dit que j'allais être en situation d'handicap mental et j'ai été plutôt aider des personnes en situation d'handicap. Et puis je suis arrivée en France. J'ai continué mon travail en tant qu'éducatrice spécialisée. Et là, par exemple, pas plus tard que septembre à décembre 2021, j'étais me former dans une école de formateurs. Et malgré qu'ils savaient que j'étais dyslexique, qu'il y avait un protocole et tout ça, rien n'a été mis en place. On a même dit à la fin que je me cachais derrière ma dyslexie. Donc je l'avais un peu mauvaise, mais j'ai serré les dents et j'ai été jusqu'au bout de la formation avec succès.
Cécile Péguin, ancienne orthophoniste et maintenant coordinatrice et intervenante sur la plateforme 10 de l'ASEI, qui travaille avec la GFIP pour accompagner des personnes 10, qui ont des troubles 10, dont des dyslexies, dans la formation professionnelle et dans l'emploi. Alors, dans le cadre de nos fonctions ici, on nous demande, des entreprises ou les Cap Emploi, les Pôle Emploi, les organismes de formation, on nous demande de venir rencontrer ces personnes, de savoir où elles en sont par rapport à leurs problèmes de dyslexie, parce que souvent, elles ont eu parfois de l'orthophonie dans l'enfance, pas toujours. Elles ne savent pas elles-mêmes exactement où elles en sont, donc on fait un point, on objective un peu leurs difficultés à lire, à écrire, à orthographier, etc. Et ensuite, donc, on leur explique aussi de quoi il s'agit, parce que souvent, c'est des personnes qui culpabilisent beaucoup, qui ne savent pas trop ce qu'elles ont, qui pensent qu'elles n'ont pas assez travaillé, alors que souvent, c'est l'inverse, elles ont beaucoup travaillé. Et donc, on leur explique. Et on explique aussi à l'entourage, aux personnes qui doivent les former, qui doivent les accompagner dans leur boulot, à leur hiérarchie, éventuellement. On essaye de trouver du matériel pour les aider. Il existe maintenant des logiciels qui permettent quand même d'aider à lire, à écrire. Donc, comme il existe beaucoup de choses, on essaye des choses avec eux et on voit ce qui leur convient, selon qu'ils sont plus ou moins aptes à se servir d'un ordinateur, etc. Ou d'autres stylos lecteurs. Enfin, il y a de plus en plus de choses qui arrivent pour les aider quand même. Certaines personnes peuvent être relativement bien aidées.
Alors, quelles sont les difficultés rencontrées pour les personnes dyslexiques dans l'insertion ?
Et c'est très difficile de nos jours de s'insérer quand on a des grosses difficultés d'orthographe. Parce qu'en France, l'orthographe, c'est hyper important. Dès qu'on écrit un mail ou une lettre de motivation avec des fautes, on est jugé pour être quelqu'un de négligent ou de stupide, etc. Culturellement, chez nous, l'orthographe est hyper importante. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, dans certains pays du Nord, ce n'est pas un sujet si on fait une erreur d'orthographe. En France, ça l'est. C'est assez terrible quand on recherche un emploi. Donc, ça augmente la situation de handicap de ces personnes qui peuvent être tout à fait compétentes dans leur métier, mais qui ne vont pas pouvoir accéder à certaines fonctions en raison de ce problème de lecture et d'orthographe. Alors, souvent, les dyslexiques, il y en a qui font des études supérieures, hein, qui peuvent... faire du droit, de la médecine, etc. Ou alors, ils ont des dyslexies très sévères ou une éducation qui font qu'ils vont rester dans des métiers plus manuels où il y a moins d'écrit. Mais en tout cas, s'ils lisent, ceux qui lisent, ça leur demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Donc, beaucoup plus de temps. Et le temps en entreprise, c'est une denrée coûteuse. Donc, ça peut poser des problèmes aussi, temps dont ils ont besoin pour faire les choses. C'est des personnes qui vont travailler en plus chez eux le soir, beaucoup, le week-end, pour essayer de rattraper. Et qui peuvent, au bout de quelques années, faire un burn-out ou développer des pathologies en raison de ces efforts énormes qu'ils font pour compenser. Surtout si, en plus, on leur fait des remarques sur leur faute d'orthographe ou, si on, ou sur le fait qu'ils ne travaillent pas assez. Voilà, ça peut, quand, le gros problème, c'est quand c'est méconnu et que ça peut engendrer donc, des malentendus, des incompréhensions. Le problème, c'est que pour avoir les aides dont je vous ai parlé, il faut faire une reconnaissance de handicap. Donc, ce n'est pas aussi facile quand on a une dyslexie sévère mais simple, sans autre problématique, de se dire que ça relève d'un handicap et d'aller vers la MDPH. Voilà. Mais pourtant, ça l'est de nos jours, compte tenu donc, des exigences dans les écrits, que ce soit sur le numérique et tout, dans tous les métiers, maintenant, il faut lire, écrire. Et puis, cette particularité française par rapport à l'orthographe, ça devient un handicap, donc il faut pouvoir le faire valoir.
C'est quoi ton emploi ?
Je suis consultant en système d'information. Ça veut tout et rien dire. C'est en fait, j'aide un client à faire son travail. Ça veut dire que j'accompagne un client à organiser les actions qu'il doit faire par rapport à la mise en place d'un nouveau système d'information. Le système d'information, c'est le système informatique.
Voilà. Dans l'entreprise, tu les as informés de ton problème de dyslexie. Est-ce qu'ils sont au courant ?
Dans mon entreprise à moi, non. Après, des fois, j'en parle avec le client parce que des fois, je dis ça, je peux pas le faire parce que je suis dyslexique. Voilà, donc c'est des trucs qu'il faut reprendre. Les noms, je retiens pas les noms de famille des gens, les prénoms. Donc, je leur dis, bah, envoyez-moi un mail, je contourne les problèmes. Voilà, non, mais sinon, j'en parle pas vraiment. Voilà. C'est un handicap pour moi, pour rédiger les mails. Je mets un temps fou pour rédiger les mails parce que j'ai des idées. Quand je parle, je donne plein d'informations, mais après, quand je dois le transformer par écrit, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, la traduction, je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais ça ne se transforme pas en écrit. Donc quand j'écris, on va dire, je fais des phrases courtes qui ont un sens et je fais point 1, point 2, point 3, point 4. C'est très froid comme écriture. Les gens pensent que je suis un peu énervé quand j'écris. Parce qu'il n'y a pas de fluidité, c'est vraiment très factuel. Parce que dès que la phrase est un peu trop longue, je me perds dans ma phrase.
Pourquoi tu n'as jamais voulu en parler, par exemple, au sein de l'entreprise, avec tes collègues ou avec, je ne sais pas, quand tu as été embauché, pour, par exemple, avoir des dispositifs qui te permettent d'avoir plus de temps ou des choses comme ça ou...
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des dispositifs qui donnent plus de temps dans l'entreprise. Ce n'est pas très reconnu comme handicap. Et ensuite, entre collègues, j'en parle, mais après, je pense que si on en parle, peut-être, je me trompais, à l'embauche, c'est un frein. La personne va dire qu'il va pas savoir s'adapter, il va avoir des problèmes de locution, il va de contact avec les autres personnes, etc. Voilà, c'est un peu, ça va être ça. Parce que le dyslexique, c'est normalement ces gens qui font pas le bac, qui s'arrêtent tôt, voilà, qui sont un peu crétins. C'est vu comme ça.
Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, on peut faire une reconnaissance de handicap par rapport à la dyslexie ?
Ah non, je savais pas.
Du coup, quelles sont les solutions que vous proposez justement pour pallier un petit peu à cette difficulté d'insertion à l'école, par exemple, de ces enfants dyslexiques ?
Il y a deux façons de voir les choses. Nous, dans le monde de la santé, on va être dans une approche médicale, paramédicale, qui va être une approche de diagnostic, de poser le diagnostic, le bon diagnostic, au moment où l'enfant en a besoin, et de proposer des aménagements pédagogiques, de la rééducation, et éventuellement des stratégies de compensation. Ça, c'est le regard médical sur la situation. Mais avant ce regard médical, il y a tout ce qui se passe avant. Et c'est là où, effectivement, on travaille aussi, en tant qu'association Xitadis, pour essayer d'élaborer et de mettre en place des stratégies de prévention. Autrement dit, l'idée que, sur une centaine d'enfants en difficulté de lecture en CP et en CE1, les trois quarts pourraient accéder à une lecture avec une pédagogie différenciée, une intensification, un accompagnement explicite en classe, en petits groupes d'enfants à besoins similaires, par exemple, et éviterait à ce moment-là de se retrouver un an, deux ans après, en situation de toujours pas être lecteur, et de rentrer dans une filière de soins, les filières de soins étant extrêmement saturées au niveau de l'accès aux orthophonistes. Vous voyez ? Donc l'idée, c'est de dire, les politiques de santé, elles doivent être couplées avec les politiques de prévention. Et c'est cette cohérence entre ces deux politiques qui vont faire que n'arriveront aux soins que les enfants qui en ont besoin. Par contre, les enfants qui devront arriver aux soins, ils y arriveront plus tôt. Et ils y arriveront avec en plus des professionnels qui sont capables à la fois de regarder ce qui est la plainte, par exemple, la suspicion de dyslexie, mais ce qui aurait aussi d'autres niveaux de difficulté de l'enfant. Parce que dans notre champ du neurodéveloppement, c'est-à-dire du développement des fonctions cognitives de l'enfant, la particularité, c'est que les enfants, ils n'arrivent pas avec une seule plainte et un seul trouble. Et ils ont souvent différents troubles associés. Et c'est important d'arriver à bien catégoriser quel est le trouble à l'âge de l'enfant qui est celui sur lequel il faut mettre l'essentiel des efforts, mais de ne pas oublier les autres troubles, parce que les autres troubles, ils peuvent constituer des freins dans l'accès à une fonction normale. Je vous donne un exemple, par exemple, si vous essayez de rééduquer en orthophonie un enfant qui a un très gros déficit d'attention, ben vous allez user du temps, user de la ressource rééducative, user de la ressource pédagogique, et tant que vous n'aurez pas identifié le trouble d'attention et levé ce trouble d'attention, la rééducation ne portera pas ses fruits. Donc vous voyez, c'est l'idée qu'il faut travailler à plusieurs, on confronte des points de vue différents, et c'est ce qu'on fait dans l'autre versant de ce que fait Occitadis, qui est le parcours de santé TSLA Occitanie, qui est un dispositif d'expérimentation de l'accès aux soins à l'échelle de l'ensemble de la région.
Dans les soins que nécessitent les enfants, dont les enfants ont besoin, il y a orthophonie, le plus souvent, bien sûr, mais orthophonie est remboursée par la Sécurité sociale, alors que les autres soins qui sont la psychomotricité, le soutien psychologique, parce que les enfants perdent souvent confiance en eux-mêmes, il y a souvent besoin d'un soutien psychologique. Et l'autre aspect aussi, pour tous ceux qui ont les difficultés graphiques, les difficultés du geste, c'est souvent la psychomotricité ou l'ergothérapie pour mettre en place des outils. Tous ces soins ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Et donc, pour une famille qui a un enfant avec des troubles, c'est en fait un parcours très coûteux pour accompagner cet enfant. Le but de l'association Occitadis qui s'est créée a été de proposer une expérimentation de mise en place des premiers bilans et d'une prise en charge pendant un an, bien sûr l'orthophonie, mais psychomotricité ou ergothérapie et soutien psychologique, par des séances prises en charge et payées, rémunérées par l'assurance maladie. On a 3 ans pour prouver au gouvernement que cette prise en charge financière par l'assurance maladie est bénéfique pour les familles et va permettre un meilleur accompagnement des familles. On voit déjà l'engorgement des demandes. Ça veut dire que les familles sont très intéressées par cette mise en place de cette plateforme TSLA, Troubles spécifiques des apprentissages.
C'était un documentaire sonore d'Agnès Gontier de Radio Axe Sud autour de l'insertion sociale et professionnelle des personnes dyslexiques. Je remercie toutes les personnes qui ont témoigné ou éclairé le sujet. Ne restez pas isolés si le sujet vous concerne. L'APDIS accompagne les familles, fait découvrir des outils pour faciliter le quotidien des personnes dyslexiques. N'hésitez pas à contacter l'APDIS au 06 64 27 47 72. 06 64 27 47 72. Pour plus d'informations sur le parcours de soins TSLA porté par l'Occitadis, un site internet Occitadis. Occitadis.fr.
C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.